Ça jase à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin Francisque Reboulet, le président de l'association Espérance Banlieue Pierre Bénite. Francisque Reboulet, bonjour.
Bonjour.
À la rentrée de septembre 2016, Pierre Bénite devrait compter un nouvel établissement scolaire un peu particulier hein, puisqu'il s'agit d'une structure indépendante hors contrat qui est destinée à lutter contre le décrochage scolaire. Alors racontez-nous un peu la genèse de cette première pour la métropole de Lyon.
Je suis arrivé là-dedans il y a un an, au moment des attentats de Charlie Hebdo, et oui. Où je suis comme beaucoup de Français tombé de ma chaise, et je me suis dit où on va, et il faut faire quelque chose. Bon, tout le monde défilait, il y avait plein de choses, bon, c'est pas trop mon caractère. Quelques semaines plus tard, je suis tombé sur une émission qui présentait Espérance Banlieue. Ça m'a plutôt séduit, je suis allé sur leur site et j'ai considéré que ça correspondait exactement à ce qu'on pouvait faire et en tous les cas, l'engagement que je voulais prendre. Et on a démarré nos contacts avec Espérance Banlieue en septembre et on s'est mis d'accord en novembre et on doit lancer cette première école sur Pierre Bénite au mois de septembre.
Effectivement, alors Espérance Banlieue qui est parrainée hein, par Harry Roselmack doit ouvrir des classes du CP à la 6e dans l'ancien hôtel de ville de jeunesse de Pierre Bénite. Vous espérez prendre rapidement en charge 150 enfants. Qu'est-ce qui changera dans leur quotidien et leur apprentissage par rapport à une école privée ou de l'éducation nationale?
En fait, on part d'un constat important, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, quand ils arrivent en 6e, et ce n'est pas nous qui le disons, puisque ce sont les statistiques PISA internationales, que 31% des enfants qui sortent des carrières politiques de la ville n'ont pas le niveau de lecture exigé. Nous, on veut revenir sur les fondamentaux et faire en sorte que ces enfants sachent lire, sachent compter et soient fiers d'être français. Tout ça avec des apprentissages qu'on a bien connus, méthode syllabique par exemple pour le français.
Oui.
On veut leur apprendre à compter et puis on veut leur apprendre à être fiers d'être français. Ça, on va le faire par l'intermédiaire de l'étude de l'histoire de la France, de l'histoire de l'Europe et par l'intermédiaire du respect du drapeau national, du respect de l'hymne, de façon à fédérer autour de cette image.
Oui, effectivement, il y a cette montée au drapeau le matin, la récitation de la Marseillaise, ça fait un peu ambiance service militaire. Est-ce que vous vous revendiquez de cet héritage?
Non, ça fait pas, enfin, on ne se revendique pas du tout de cet héritage. En fait, le montée du drapeau, c'est le lundi. C'est un moment essentiel dans la vie de l'école, puisque tous les élèves, tous les professeurs sont réunis. Effectivement, il y a la montée du drapeau, effectivement, il y a la Marseillaise, mais il y a surtout la valorisation des enfants qui ont bien progressé dans la semaine. Et je ne dis pas qu'ils ont les meilleurs résultats, parce que ça pourrait toujours être les mêmes, mais qui ont bien progressé. Donc on va reconnaître les enfants qui ont bien progressé devant l'ensemble de l'école. Alors nous, on revient sur le drapeau national, parce que pour nous, c'est un élément essentiel de la vie. Aujourd'hui, on nous critique parfois avec cette attitude, mais moi je dis, les Jeux Olympiques, quand un Français gagne le 100 mètres, bon, ce qui est rare et exceptionnel, puisque c'est pas forcément des Français qui gagnent le 100 mètres, mais quelle que soit la discipline, comment ça se termine? Ça se termine avec la montée du drapeau français,
oui.
Et ça se termine avec la Marseillaise. Quand l'équipe de rugby démarre contre le Pays de Galles, qu'on a vu samedi dernier, ça démarre avec la Marseillaise. Et tous les rugbyman, ils ont le drapeau bleu avec l'emblème national sur leur uniforme, pour ainsi dire. Donc moi, je trouve que c'est de créer une unité, de leur faire aimer leur pays, parce qu'ils sont français. Et en fait, tout ça, c'est parti d'une anecdote qu'on a connue quand on a ouvert la première école à Montfermeil, en région parisienne. Tous les élèves qui avaient été inscrits étaient français. Ils étaient d'origine maghrébine, subsaharienne pour la plupart. Et la première question qui a été posée, c'est « Êtes-vous français ?» Et en fait, seulement un tiers des enfants a répondu qu'ils étaient français. C'est-à-dire que les deux tiers des enfants se considéraient comme non français. Donc, on veut qu'ils comprennent qu'ils sont français et qu'ils soient fiers de l'être, comme nous, on peut l'être.
Également un uniforme, pas de blouse, hein, mais un sweat à capuche. Chaque détail a son importance, il y a un message derrière ça.
L'uniforme, c'est pareil, on est souvent critiqué sur l'uniforme. Moi, je vais reprendre l'image du sport. On ne se pose pas la question qu'en rugby ou qu'en football, mais restons sur le rugby, l'équipe de France, quand elle joue contre le Pays de Galles, eh ben, ils sont tous en bleu.
Oui.
Ils ont tous l'uniforme de l'équipe de France. Et pourquoi ils ont ça? Ils ont ça parce que ça donne une vraie cohésion, ça donne un vrai esprit d'équipe, ça donne un vrai esprit d'entraide. Et les enfants vont se défendre les uns les autres parce qu'ils ont l'uniforme. En France, ce n'est pas trop très habituel, cette histoire d'uniforme, mais aux États-Unis, on trouve ça dans les free schools, on trouve ça en Grande-Bretagne, on trouve ça dans le monde entier. C'est un uniforme relativement cool, hein, puisque effectivement c'est un sweat à capuche qui fait plutôt jogging qu'uniforme, mais qui permet de créer un vrai esprit de corps, et c'est ça la volonté.
Autre chose qui change avec Espérance Banlieue, c'est que vous demandez aux parents d'être très impliqués, en tout cas plus que dans l'éducation nationale, puisqu'ils recevront des comptes rendus, parfois quotidiens, sur l'avancement de la scolarité de leur enfant. C'est déjà 50% de la réussite d'un enfant d'avoir les parents derrière.
Alors là, vous touchez un des points essentiels et d'où ça, c'est qu'il y a une forte implication des parents. C'est-à-dire lorsque l'élève est inscrit, les parents signent notre charte, tout comme l'élève, et les parents acceptent nos méthodes. et les parents sont informés en permanence de ce qui se passe dans l'école, oui. reçoivent en moyenne 6 SMS par semaine pour l'évolution et les résultats de leurs enfants. Et là-dessus, je vais prendre deux exemples. Quand un enfant va faire une bêtise, plutôt que ce soit le professeur qui le sanctionne, on va inviter les parents à venir. Ils vont rencontrer le directeur, ils vont rencontrer le professeur, on va s'expliquer sur la bêtise qui a été faite, ils vont prendre en commun la décision de la sanction, et après ils vont faire venir l'élève qui va se trouver face au corps professoral, face à ses parents, et c'est les parents qui vont donner la sanction. Il y a une vraie implication des parents. Et un autre exemple un peu plus positif, on va dire, lorsque le gamin va réussir, par exemple, sa récitation, sa poésie, on va envoyer, dans la journée même, avant que l'enfant rentre chez lui, on va envoyer un SMS aux parents en lui disant « Votre enfant, aujourd'hui, il a réussi sa poésie, il a eu une bonne note, etc. » Ce qui fait que quand l'enfant va rentrer chez lui, il va être accueilli par ses parents, qui vont le féliciter et qui vont lui dire ben bravo, voilà, t'as bien réussi, on a été informé, on est fiers de toi. Voilà, c'est ça qu'on veut créer, c'est vraiment que les parents participent, ils sont invités aux réunions du lundi matin à la levée des couleurs, ils sont invités en permanence à participer, à faire éventuellement des petites actions de bénévolat à l'intérieur de l'école.
Est-ce qu'un enfant qui intègre Espérance Banlieue a vocation à rester chez vous plusieurs années, voire même toute sa scolarité, ou est-ce qu'il est recommandé qu'à partir d'un moment, il retourne dans le giron de l'éducation nationale ?
Alors, si vous voulez, il n'y a pas de règle là-dessus. Il n'y a pas de règle, mais je vais vous donner un petit scoop. En fait, notre association va s'appeler La Passerelle.
Oui.
Ça va être le cours La Passerelle de Pierre Bénite. Et en fait, pourquoi on a choisi ce nom ? C'est parce que passerelle entre les âges, passerelle entre les nationalités, et surtout passerelle entre le privé et le public. C'est-à-dire qu'à tout moment, et nous, on n'a pas vocation à garder ces enfants, nous, on veut les prendre parce qu'ils ont des difficultés, on a les moyens que n'a pas l'éducation nationale de les faire réussir, parce qu'on a des petits effectifs, les classes, c'est maximum 17 élèves, parce qu'on pratique beaucoup de tutorat, donc de l'enseignement à la carte. On va insister spécifiquement avec un élève sur le français, sur un autre sur les mathématiques, etc. Donc, ce que peut pas se permettre l'éducation nationale, malheureusement, mais nous, on va faire ça. Et puis, le jour où les enfants, ils sont rentrés, qu'ils ont un bon niveau, ils peuvent retourner dans le public. D'ailleurs, chaque année, il y a un concours de passage entre le privé et le public qui permet de valider tout ça. Mais voilà, c'est pour ça que nous, on a choisi ce nom de passerelle. C'est vraiment, nous, on ne veut pas recréer l'éducation nationale, on est des petites unités. D'ailleurs, le maximum de notre école sera 140 élèves.
Oui.
Au-delà, on créera une deuxième école et on en reste là. On veut juste participer à aider certains enfants à sortir de situations de décrochage qui peuvent conduire aux pires extrémités.
Alors, Espérance Banlieue n'a pas le droit de toucher des subventions publiques. Vous demandez aux parents 75 € par mois par élève, mais pour le reste, pour ouvrir l'école et puis ensuite pour faire tourner l'établissement, vous en remettez au mécénat, c'est ça ?
Exactement. Là, vous avez touché également un point essentiel de notre problématique. 75 € par mois, ça couvre à peu près entre 15 et 20% des frais de scolarité. Donc, ça veut dire qu'à côté, il reste 85% des frais de scolarité à financer. Et comme sur la ville de Pierre-Bénite, on nous propose un bâtiment qu'on nous loue et sur lequel il faut faire un certain nombre de travaux parce qu'il est un peu trop petit pour notre besoin, il y a également des besoins d'investissement qui sont importants. Et là, on fait appel effectivement à des dons privés, que ce soit des dons de particuliers, d'entreprises, avec toutes les mesures fiscales d'accompagnement, mais on a interdiction d'encaisser quelque forme que ce soit des subventions publiques, que ce soit communales, régionales, départementales, évidemment nationales.
Depuis quelques années, d'autres établissements Espérance Banlieue ont ouvert un peu partout en France, à Marseille, en région parisienne, à Roubaix. Est-ce que, avec le recul, vous avez une idée des progrès qui ont pu être effectués par les enfants et les adolescents qui étaient pris en charge ?
Oui. Bon, j'ai pas de statistiques parce que je suis pas forcément un homme de chiffres, mais aujourd'hui, les progrès sont spectaculaires. Les enfants qui viennent dans nos écoles, en fait, sont souvent des enfants qui pratiquent fortement l'absentéisme, le retard, etc. Et on se rend compte que dès qu'ils intègrent, au bout d'un trimestre, au bout d'un mois, ils sont contents d'aller à l'école. D'ailleurs, il y a des vidéos sur le site qui le démontrent. Moi, je vous incite éventuellement à aller voir ces vidéos. Ils sont fiers de venir travailler. Ils ne sont plus absents. Ça chute de manière significative.
Oui.
Ensuite, il y a des résultats. Ils apprennent à lire. Ils sont fiers d'appartenir à notre nation. Alors ça, il n'y a qu'un seul élément qui peut nous le faire valider. C'est le brevet d'écolage. C'est-à-dire qu'en troisième, la sanction, c'est le brevet des collèges. Et vous devez savoir que dans l'enseignement privé hors contrat, autant dans l'enseignement traditionnel public, le contrôle continu compte pour beaucoup dans la réussite du brevet. Mmh. Et par contre, dans nos écoles, le contrôle continu n'est pas du tout intégrés. Et on comprend bien pourquoi, parce que ça pourrait être des notes de convenance.
Oui.
Donc tout se joue sur l'examen. Et on a des taux de réussite tout à fait comparables au taux de réussite de l'enseignement public après à ce qu'ils aient les enfants et fait une partie de leur scolarité chez nous.
Et puis Francisque Reboulet, si l'expérience à Pierre-Bénite se concrétise et porte ses fruits, est-ce que la métropole de Lyon a vocation à accueillir de nouveaux établissements dans le futur ?
Forcément, forcément. Bon, nous ne sommes pas, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne voulons pas recréer l'éducation nationale, donc nous ne sommes pas sur un mouvement de développement fort. Mais ce qu'il est sûr, c'est que demain, il peut se créer une association, parce que pour nous, une école, c'est une association.
D'accord.
Il peut se créer une association à Vaux-en-Velin, il peut se créer une association à Saint-Priest, il peut se créer une association à Vénissieux, enfin bon, on va refaire toutes les communes de la métropole, sur Lyon également, et qui développera son projet. Comme nous, on est un peu pionniers sur la région, bien évidemment, on leur donnera l'assistance, l'aide, on leur expliquera comment nous on a fait. Il n'y a aucune raison que d'autres projets ne voient pas le jour dans la région. Alors, ce que je vous ai également pas dit, c'est que nous sommes... d'entrée laïque, non confessionnelle et non politique. Et forcément, demain, eh ben aujourd'hui nous sommes dans une mairie de droite, mais demain, les écoles vont se développer dans des mairies de gauche, dans des mairies... Parce qu'on considère qu'il y a quand même un vrai besoin. On se propose également de soulager l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on a un exemple relativement précis dans une école d'une trentaine de gamins. S'il y a un élève qui est très turbulent, moi je dis, le directeur, il vient nous voir, on peut l'inscrire, nous on va le prendre en main, on va s'occuper de lui avec nos méthodes, notre tutorat. Et du coup, les 29 autres élèves, eh ben, ils auront plus cet élément perturbateur, donc ils vont mieux travailler. Le professeur n'aura plus cet élément perturbateur, donc il va mieux travailler.
Oui.
Et tout ça, ça va profiter à tout le monde. C'est des vraies synergies. Et peut-être que 2 ans plus tard, quand cet enfant sera remis dans un monde, eh ben, il retournera dans l'éducation nationale.
Merci Francisque Reboulet.
Merci à vous.
Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio, en partenariat avec lyonmag.com.